peu conscience politique, quand même, ce qui donne sens, même s'il n'y a pas volonté didactique.
Pas seulement, pour moi, mes films sont politiques, quand le sujet est politique. Je veux dire, la politique aussi, j'essaie de la faire venir de la réalité, de ne pas de ma conscience à moi. Naturellement, on ne peut pas séparer sa conscience de la manière de voir les choses, mais je veux dire, j'essaie aussi d'évacuer la politique le plus possible pour qu'on n'ait pas l'impression que je fais un film sur ma propre conscience politique. Évidemment, ma conscience politique me guide, mais quand je vacille un film comme Daniel Michi, ma conscience politique, elle est déjà à l'œuvre au moment du choix, et mon implication, elle est déjà dans le sujet. Et je n'ai plus besoin de trop montrer mon engagement. Comme par exemple, hier, quelqu'un me l'a demandé ou a assuré qu'aussi un gauchiste, un peu une mentalité gauchiste, c'est-à-dire de demander au cinéaste de montrer sa colère, de montrer un chemin, de montrer comment faire dans l'avenir, etc. C'est pas mon truc, c'est pas du cinéma pour moi. C'est-à-dire qu'évidemment, je travaille aussi sur la politique, mais la politique pour moi fait partie de mes sujets. Et là où elle apparaît, j'essaie de la montrer. J'essaie de montrer les choses aussi à travers la politique, politiquement. Mais j'essaie d'éviter de faire des films sur ma conscience politique. Ça fait partie de ma manière de m'approcher de la réalité.
Tu en as, enfin, c'est au cœur de ton cinéma, c'est vrai que la quête de la trace. Mais on a l'impression, dans ce que tu dis, en fait, que la Suisse n'a pas de mémoire, n'a pas de... le passé. Or, justement, tes films prouvent quelque part le contraire.
L'idéologie officielle de la Suisse est tellement réactionnaire qu'elle refoule sans arrêt la mémoire. Ça fait partie de ce refus des contradictions, de cette fausse naïveté qui fait croire qu'en Suisse, il n'y a pas de contradictions, il n'y a pas de lutte de classe, il n'y a pas de pauvreté en face de la richesse, il n'y a pas d'oppression, etc. Donc, si je travaille sur la mémoire, c'est aussi parce qu'en Suisse, il y a une absence de mémoire, il y a une mythologisation de notre histoire, il y a un mensonge sur l'histoire. Nous, les cinéastes, d'autres aussi, les écrivains, les intellectuels responsables, on a toujours lutté contre le mensonge. Et on a toujours essayé de montrer la Suisse comme elle est, au-delà des mensonges. Un type comme Frisch, justement, est l'intellectuel clé en Suisse parce que c'est l'homme par excellence qui a détruit, ou qui a essayé de détruire, finalement, le mensonge de la Suisse sur elle-même. Et ce qu'on lui a jamais pardonné, je veux dire, c'était quand même assez étrange qu'un homme comme Frisch, qui est tout de même un radical, disons dans le sens gauchiste du terme, sûrement pas non plus un révolutionnaire, il est tout de même devenu l'ennemi public numéro un de la classe dirigeante en Suisse, alors que, bon, il a toujours critiqué la Suisse, mais il n'est pas allé dans les montagnes avec un fusil. Je veux dire, chez nous, on a vraiment l'impression que la classe dirigeante a beaucoup de peine à supporter la critique, parce qu'elle vit sur ce mythe qu'elle n'est pas la classe dirigeante, puisqu'il n'y a pas de classe sociale en Suisse, et qu'elle gouverne tout à fait démocratique, je veux dire que tout le monde est d'accord avec elle, donc elle se dissout dans le peuple, que le peuple est la bourgeoisie, la bourgeoisie du peuple, et ça, d'une certaine manière, c'est vrai que, je veux dire, un ouvrier chez nous qui travaille à l'usine, il se croit propriétaire de son outil, et il travaille avec son outil comme si c'était sa propriété privée. Les vendeuses dans les grands magasins, elles sont tellement responsables, comme si ce grand magasin, à partir de, je veux dire, il y a cette... En Suisse, une mentalité responsable qui fait que tout le monde est un peu bourgeois d'une certaine manière, croyant être propriétaire de quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, le Suisse, l'ouvrier le mieux exploité dans le monde, je veux dire, par rapport aux richesses qui existent en Suisse, les Suisses travaillent depuis longtemps, ils ont le moins de vacances, ils ont les services sociaux les moins développés, la retraite la plus tardive, etc. Je veux dire, comment on appelle ça en général,
c'est les acquis sociaux.
Les acquis sociaux en Suisse sont les moins bons en Europe. Alors que la Suisse a le standard de vie le plus élevé. Bon, ils vont nous dire, parce que les acquis sociaux sont un peu retardaires, au moins on a le standard le plus haut, mais c'est quand même un immense mensonge. Donc, l'ouvre Suisse, vraiment, c'est le mieux exploité. Bon, il vit bien parce que la Suisse est un pays riche et il a des salaires autres, mais il pourrait aller encore beaucoup mieux s'il était plus combattu. Mais bon.
Tu parles beaucoup des échecs, mais en fait, par exemple, le fait que des Suisses soient partis en Espagne, c'est quand même à mettre à l'actif de l'histoire de la Suisse.
Oui. C'est devenu un échec, mais ce n'est pas leur faute, ils avaient pu faire tout leur péché. Mais non, mais ce que je vais montrer, c'est qu'en Suisse, aussi en Suisse, même en Suisse, il y a des gens bien, des gens respectables, des gens avec lesquels on pourrait faire quelque chose. Et qu'on essaie, on essaie toujours. Je suis du côté de ceux qui résistent. Je suis moi-même, j'ai une mentalité de marquisard. J'ai un amour pour le maquis, pour la résistance, je rêve d'insurrection. Donc, en Suisse, je cherche ceux qui ont les mêmes rêves que moi et avec lesquels j'essaie de constituer une famille. J'ai toujours politiquement travaillé avec une idée d'alliance. J'ai toujours pensé avec chaque film, je fais une alliance avec un public, je fais une alliance avec mes personnages et ensemble, j'essaie de vivre, de lutter pour un territoire. J'ai comme dit d'ailleurs un personnage dans le film Zone Grise, Freddy Miller, qui a un peu cette même idée-là. On cherche dans un pays qui est petit, où il y a peu d'espace libre, on cherche des îlots, des territoires pour survivre. C'est d'ailleurs exactement ce que ce mouvement des jeunes avait cherché à travers la maison des jeunes, par exemple. Il y a des territoires, des îlots, où on n'est pas emmerdé par les mouchards et les enfants. Et c'est pour ça que le mouvement est devenu si violent. Difficilement à comprendre.
Quand tu dis que tu as une mentalité de maquisard, de résistant, est-ce que c'est pas ce qu'on apprend en Suisse quand on est enfant, dans l'histoire de la Suisse, cette résistance, cette combativité?
En Suisse, on vous apprend le contraire. On vous apprend de ne jamais vous soulever, de ne jamais. En Suisse, finalement, on apprend que la révolution, la violence, etc., c'est des choses mauvaise, hein, c'est le mal. Il faut toujours discuter, même avec les dictateurs, même avec les oppresseurs, il faut être gentil, discuter ensemble et voir si on ne peut pas trouver un compromis. Hein, c'est la mentalité.
C'est la neutralité.
C'est rester neutre, c'est-à-dire de profiter. Je la neutralité suisse, c'est une affaire de marchand. Mais je veux dire,
je te parlais de
Guillaume Tell,
de toute l'histoire.
Oui, mais Guillaume Tell est une invention étrangère. C'est un écrivain allemand qui a inventé Wilhelm Tell, c'est un homme qui n'a jamais existé. La révolte de la Suisse, la seule qu'elle a fait, c'était contre l'occupation autrichienne pour s'en libérer. Je veux dire, c'est une lutte d'indépendance. Avec des idées économiques dans la tête très précises. Mais depuis là, la Suisse a toujours été du côté des oppresseurs. Les derniers soldats qui ont défendu le roi de France, c'était les Suisses. Les gens qui ont tiré sur le peuple de Paris, c'était les soldats suisses. Les soldats qui ont défendu Napoléon en Russie et qui ont couvert la retraite de l'armée de Napoléon et qui se sont sacrifiés pour cette armée-là, bêtement, c'était des Suisses. Je veux dire, c'était des gens qui suivaient les ordres stupidement, bêtement.
Les sans lit, les sans toit, les sans rien. malheur, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Hop la boum, dans la belle-mère, hop la boum, dans le marié, hop la boum, dans le notaire.
Ce jeu de massacre, Marianne Oswald. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, nous retrouvons Richard Dindo.
Que ces soldats stupides qui ont criminellement tiré sur le peuple de Paris, aux Tuileries, ils ont un monument en Suisse, un monument militaire, alors que les commandants d'Espagne n'en avaient pas. Les commandants d'Espagne, ils ont demandé pendant 40 ans à la ville de Zurich de pouvoir mettre une plaque au souvenir des tombés, des morts de la guerre, sur la maison du peuple, une petite plaque de rien du tout. Les autorités ont refusé pendant 40 ans. Et c'est seulement après que mon film est passé à la télévision qu'ils l'ont accepté. Alors que les soldats du roi, ils ont un monument fameux, auquel d'ailleurs souvent les écoliers sont invités, c'est-à-dire les professeurs, les agisseurs, ils amènent leurs écoliers devant ce monument. C'est pas ce qu'ils leur racontent comme conneries, mais enfin, voilà un peu la Suisse.
Faire du plein avec du vide.
Oui, c'est une question dialectique. Comme je travaille sur des sujets, j'aimerais mieux dire objet, mais disons sujet, c'est un peu compréhensible pour les de sujets du passé, c'est-à-dire que contrairement à Depardon comme Weizmann, qui sont des documentaristes traditionnels pour moi, et je dis ça pas d'une manière péjorative, mais je veux dire c'est un autre type de cinéma documentaire, mes sujets sont absents, souvent mes personnages clés sont absents parce que mort, ou parce qu'ils ne voulaient pas être filmés, donc je suis obligé de filmer des décors vides en quelque sorte, une réalité qui cache son sens, que je dois dévoiler avec un travail dramaturgique qui a beaucoup construit un tas de montage. C'est-à-dire que, vu que pour moi il est en même temps très difficile et très facile de trouver des images, c'est la réalité qui me les impose. part, c'est très facile parce qu'elle me les impose. D'autre part, c'est difficile parce que l'objet filmé est absent. Donc, je fais des images simples que j'essaie de faire évident. Mais après, il faut que j'ajoute le sens, la chose absente. Et ça, pour cela, j'ai besoin du son, j'ai besoin de la langue, du langage, j'ai besoin du commentaire, j'ai besoin des documents, de la musique, etc. Et comme ça, je crée un sens à travers un travail dramaturgique.
Le 30 août, Michi participe à une manifestation contre la pénurie du logement. Il est au premier rang, avec le foulard blanc. Après une descente de la police, la maison des jeunes est fermée pour la première fois. Elle reste fermée pendant des mois. À Noël, des milliers de jeunes manifestent pour sa réouverture.
Paris Pluriel, 106.3, émission passerelle, émission de cinéma. J'espère que vous excuserez la mauvaise qualité du son pris en salle. Lorsque je suis allée revoir Dani Micironato et Max, j'en ai pris un tout petit extrait pour susciter l'envie d'aller voir le film. Je trouve que c'est bien parfois de prendre des ambiances sonores. Alors évidemment, on est toujours assujetti à ce moment-là à ce qui se passe dans la salle et les bruits parasites sont parfois inévitables. Donc, Dani Micironato et Max, ce film qu'il faut aller voir et qui prend un relief tragique, étonnant et actuel avec la résurgence de bavures policières ces derniers jours en France, l'assassinat de jeunes dans des commissariats, l'assassinat de jeunes dans des rues, assassinat qui rappelle l'affaire Malik Oussekine, qui rappelle également donc l'assassinat, ces bavures policières contre quatre jeunes du mouvement des jeunes de Zurich, qui avait manifesté contre la fermeture de la JZ, la maison de la culture de Zurich en 1980, et donc ces quatre jeunes qui étaient morts à la suite de bavures policières. Nous retrouvons Richard Indo.
Il y avait eu une réticence des ouvriers par rapport au mouvement de la jeunesse, et donc peut-être par rapport au film aussi, en tout cas qu'il y a une incompréhension, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, entre les cahiers, le prolétariat vis-à-vis du mouvement des jeunes?
Oui, quand tu te promenais dans les rues à cette époque-là, dans les salles du mouvement des jeunes, ce que je faisais, il y avait toujours des gens autour de la maison des jeunes qui discutaient. des lieux, des quartiers, des rentiers, mais aussi d'autres, qui discutent avec les jeunes. Et, ou alors qui discutaient entre eux, et souvent tu entendais des choses vraiment assez insupportables, vraiment des choses très nazies. Hein. Tu entendais sans arrêt ce qu'il nous faudrait, c'est un nucléaire, ou il faudrait réunir tous ces gens dans cette maison de jeunes et la bombarder. Où il faut appeler l'armée, des mitrailleuses, et tirer dans les tas. Je veux dire, des phrases comme c'était arrêté sans arrêt. T'entendais sans arrêt. T'as eu l'impression, Berlin 1933. Et c'était souvent, et presque toujours, des rentiers, des gens. Hein, je veux dire, c'est l'électorat de Le Pen ici. Je veux dire, c'était des gens simples, des petits bourgeois, des ouvriers. La bourgeoisie, on ne sait pas ce qu'elle pense, c'est parce qu'elle habite ailleurs, dans d'autres quartiers, elle n'est pas descendue. En ville, elle ne va pas discuter avec les gens. Mais là aussi, je veux dire, les partis bourgeois, ils ont demandé à la police d'en finir avec cette merde et ce merdier, etc. Et la bourgeoisie a demandé aux autorités de punir sévèrement, de réprimer, d'enfermer les jeunes, etc. C'était l'atmosphère, hein, c'était l'atmosphère vraiment que d'ailleurs la mère de Dani a senti comme une atmosphère fasciste. Et elle m'a dit, après la mort de Dani, je ne supportais plus de vivre à Zurich, j'ai dû partir. Pour moi, c'était devenu une ville fasciste, qui d'ailleurs m'a empêché de faire le travail de deuil, et j'ai jamais pu me séparer de Dani, j'ai jamais pu lui dire adieu. Et c'est d'ailleurs seulement à cause, c'est grâce à ton film que j'ai pu le faire. C'est ton film qui m'a permis de terminer, dans la mesure du possible, ce travail de deuil. Voilà que l'atmosphère qu'il y avait, que je reproduis dans le film. Bon, je suis parlé beaucoup dans cette direction-là, parce que j'avais pas envie de faire un film. Ça aurait été trop... Garel de la 7, il m'a dit que ça lui a manqué, que j'ai pas montré les autorités, le pouvoir, la bourgeoisie, que... Mais je pensais que aujourd'hui, ça n'intéresse plus tellement les gens. Je veux dire, aujourd'hui, ça, on l'a compris. On a compris que la bourgeoisie est au pouvoir. On a compris ce que c'est un appareil d'État et que la police est là pour réprimer. Je veux dire, ça, j'ai l'impression qu'il faut plus expliquer ça aux gens. Moi, je pense que politiquement, ce que j'ai toujours essayé de raconter des événements aussi historiques, aussi politiques, à travers des destins individuels. Et c'est encore une dialectique. C'est faire apparaître le général dans le détail, la vie de toute la société à travers la vie de quelques-uns. Et c'est en filigrane, derrière mes sujets, tu ressens toute la société. Mais c'est au spectateur de le sentir. La ville de Zurich, l'atmosphère à Zurich, tu la sens dans chaque plan. Je ne peux pas en dire plus. C'est au spectateur de savoir ce que c'est cette ville-là, qui est ma ville natale. J'ai pas envie de faire des discours. D'ailleurs, j'ai même la peine de parler politique, parce que d'une certaine manière, j'aimerais parler cinéma, et la politique, c'est au spectateur de la voir et de la comprendre.
Enfin, quelque part, une des grandes utopies, mon rêve de l'utopie de la révolution.
Oui, mais en tant que réaction à cette société conservatrice et contre-révolutionnaire, c'est encore pour moi une dialectique. Je veux dire, un jour je suis allé dans un bureau d'un policier qui était porte-parole de la police, et je lui dis, je m'appelle comme ça, et je suis en train de faire un film sur ce sujet-là. J'avais déjà tourné les scènes importantes, l'argent était déjà sur mon compte en banque, comme ça, je ne pouvais plus téléphoner à la télévision pour se péter. Et je dis, j'aimerais vous proposer de faire un entretien avec les policiers en question. Dites-moi si c'est possible et demandez-le-leur, et s'ils sont d'accord, et si la police est d'accord, téléphonez-moi, je vous laisse mon numéro de téléphone. Bon. Ça, par ailleurs. Mais ce qui m'avait frappé comme ça dans son bureau, il avait des machins, des petits drapeaux de la police sud-africaine. Et j'ai compris que la police de Zurich a des échanges sportifs avec la police sud-africaine. Bon, j'ai rien dit, je ne sais pas remarquer, parce que je suis cinéaste, je regarde, je vois ce qu'il y a à voir. Mais il y a quelques semaines, je lis dans un journal d'extrême gauche qu'effectivement, il y a des tournées en Afrique du Sud, des policiers zurichois, qui rencontrent la police africaine, sud-africaine, qui leur raconte un peu leurs problèmes. Les policiers suisses, comme c'est des naïfs, aussi d'une certaine manière, ils écrivent un journal de voyage. Ce journal d'extrême gauche téléphone à ce crétin qui est porte-parole, qui tranquillement et naïvement leur envoie le texte de son journal, que eux racontent un peu. Ils disent, oui, le policier nous a raconté qu'il faut un travail très difficile et c'est noir, que j'ai toujours des prières, on ne peut rien faire d'autre. Il faut comprendre cette police sud-africaine, vraiment, ils font que leur poulet comme nous d'ailleurs à Zurich. Tu comprends? C'est ça leur mentalité. Et ça a toujours frappé la facilité avec les Suisses, avec laquelle les Suisses s'adaptent en Afrique du Sud et défendent ce système-là. C'est d'ailleurs pas par hasard que les meilleurs créanciers de l'Afrique du Sud, c'est les banques suisses. C'est une des hontes de notre pays, c'est que les banques suisses achètent l'or de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique du Sud vend l'or à Zurich, c'est le grand marché de l'or sur l'horizon, c'est en Suisse, que les banques suisses ont été les dernières encore à donner tranquillement des crédits au gouvernement, etc., alors que les banques américaines commençaient à freiner. C'est ça la Suisse, et toujours avec la meilleure conscience du monde.
Il s'agissait de découvrir une part.
parole populaire. Qu'est-ce que le peuple pense vraiment? Mais pour le savoir, il faut leur demander. Mais d'une part, il y a donc une volonté politique de rendre la parole au peuple. C'est un peu cette attitude 68 tard de l'époque. Et d'autre part, comment les trouver? Je veux dire, évidemment, on cherche les gens et on les choisit. Par exemple, dans le cas de Max, par exemple, qui a eu beaucoup d'amis. Évidemment, parmi ses amis, j'ai cherché un peu, j'ai regardé, et j'ai pris ceux qui m'étaient les plus sympathiques et dont j'étais sûr qu'ils me donneront des entretiens utilisables. Catherine, quand j'ai parlé avec elle, j'ai tout de suite compris que c'était une femme magnifique et qu'elle me donnerait un très bel entretien. Mais la mère de Renate, je ne pouvais pas la choisir, elle était sa mère, il fallait la finir, mais elle m'était très sympathique. Et je pense que sa manière de cacher ses sentiments est très humain aussi, c'est au spectateur de sentir cela. Moi, je ne juge jamais mes personnages, puisque je, de toute façon, je suis un allié à eux. Je ne les condamnerai jamais, puisque je suis leur allié. Et déjà solidaire avec eux, comme eux sont solidaires avec moi, du moment où ils me donnent un entretien.
C'est pas un contrat moral.
C'est pour moi, c'est le seul contrat moral que j'ai, c'est avec mes personnages. Par ailleurs, je refuse une attitude morale, qui est très suisse-allemand, cette attitude protestante suisse-allemand, monter sur la montagne et regarder en bas comment la gauche et la droite se cassent la gueule et comment les uns se trompent ici en raison là et donner le tort et la raison. Je ne suis pas supporter cette attitude-là. Mon cinéma exclut cette attitude. Mon cinéma a une vision, une démarche, une route claire et précise. Il s'agit de construire un film sans aucun moralisme. Je crois que je suis un cinéaste de l'anticomplaisance. Pas complaisant. Il y avait un Allemand, un super crétin qui travaillait à l'autre, qui était au Festival du Riel, là, dans le jury. Et comme il est Allemand, il n'aime pas beaucoup mes films, on se connaît un peu de loin. Il paraît que lui, il aurait dit que mon film était complaisant, parce que Carrel, la critique était de ne pas m'avoir donné le prix, là, au Festival du Riel, et lui, il a dit que le film était complaisant. Ce qui est une stupidité monstrueuse, typiquement allemande. Mais bon, pour dire au contraire, j'ai toujours combattu la complaisance. La complaisance suisse, parce qu'il n'y a pas pire complaisance que la complaisance suisse. C'est-à-dire cette attitude d'apparente neutralité, donc on ne se mouille jamais, on ne se salit jamais la mer, ce qui n'est pas vrai, mais c'est la prétention. Donc on a toujours raison. On ne se mêle pas aux autres, donc on peut les juger, on peut distribuer les points, etc. C'est une attitude aussi très journalistique chez nous. J'ai toujours refusé.
Quelque chose contre la falsification aussi, parce que t'as une entreprise, je veux dire, qui
tu travailles sur la mémoire.
Sur la mémoire, mais il y a quelque chose qui interpelle par rapport à la falsification qui est faite de l'histoire.
Ça se trouve. Déjà, c'est toujours dans mon débat.
Oui, sinon, il y a le problème des supports. Tu passes très très facilement d'un support à l'autre, et pourtant, tes films sont homogènes.
Je travaille là-dessus. Comment homogénéiser différents supports pour encore approfondir la conscience du public que mes images sont des documents de types différents, mais qui se homogénisent à travers la démarche dramaturgique, construite à sur la table de montage. C'est-à-dire que chaque image est un document, mais de type souvent différent. Donc pour moi, une photo est une image comme une autre, une reconstruction étant un autre type d'image. La poursuite de Danny Michaud, on m'a dit, bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pour moi, c'était absolument nécessaire parce que c'était un autre type de regard, un autre type d'image, un autre type de document à l'intérieur d'un film qui s'approche sans arrêt de plusieurs manières des choses qui se sont passées. Donc c'est encore une réflexion sur le regard. D'ailleurs, chaque image dans la poursuite de l'année Michi est le regard d'un témoin. Il y a eu 5 témoins, il y avait les 2 motocyclistes. Donc chaque image, toujours, est un des regards des 7 protagonistes en quelque sorte. C'est soit que les 2 flics qui regardent les 2 jeunes, soit les 2 jeunes qui regardent les 2 flics, soit les 5 témoins qui chacun regarde l'accident d'un point de vue. Donc pour moi, c'est une réflexion sur le regard. Comment regarder la chose, mais comme elle s'est déjà passée dans le passé, j'ai dû le reconstruire. Mais à travers le regard de témoin.
Bonjour.
C'est dommage.
Nécessaire de la police, là est toute la question. Danny Michi, Renato et Max, c'est donc un film que l'on peut voir tous les jours au cinéma Utopia, 18h, dans le cadre de la programmation documentaire sur grand écran. L'émission passerelle aujourd'hui est consacrée au cinéma de Richard Indo, documentariste suisse. Et je vous livre une phrase qu'on trouve dans le dossier disponible à l'entrée de la salle, écrite par Indo. Indo dit « Je ne suis pas un historien, je suis un cinéaste. Je ne voulais pas prendre possession de l'histoire du mouvement, je ne voulais pas le récupérer, je n'ai pas eu un rapport direct avec les jeunes du mouvement. Par contre, ce qui me regarde, c'est la répression et la liquidation par l'État de ce mouvement. En tant que cinéaste antifasciste, la violence de l'État me regarde, moi aussi. » Des rendez-vous précis avec Richard Indo ont lieu au cinéma L'Entrepôt le dimanche 18 à 14h. Il y a projection du film, rencontre et débat avec le cinéaste. Et puis le dimanche 25, toujours à L'Entrepôt, Danny Michi, Renato et Max est projeté avec une rencontre et un débat avec notre ami Didier Deninx, donc un ami de la radio, et Med Hondo, cinéaste. On peut voir également dans ce même dimanche, 25, Charlotte vit au théâtre de Richard Indo et une rencontre et un débat avec Thierry Garel, responsable de l'unité documentaire de la 7. Charlotte, c'est une femme qui a été déportée et qui a